France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, un homme est assis sur le rebord du monde, un monde qui s'écroule, et lui avec. Le 22 février 1942, au beau milieu de la guerre, un écrivain autrichien, juif, décide d'en finir avec la vie. Il a 60 ans, il s'appelle Stefan Zweig, et c'est une sommité de la littérature. Ses biographies de Marie-Antoinette et de Marie Stuart ont eu un succès considérable. Ses nouvelles, 24 heures de la vie d'une femme, où la confusion des sentiments et surtout le joueur d'échecs ont marqué son époque. Et ses amitiés avec des personnalités comme Freud, le poète Émile Verhaeren ou l'écrivain Romain Rolland ont fait de lui le chroniqueur de la vie intellectuelle de l'Europe du XXe siècle. Mais cet univers disparaît sous les coups des fascistes en Italie et du nazisme en Allemagne. Ce monde, Zweig l'appelle le monde d'hier. C'est le titre de son autobiographie. Et c'est peut-être là une piste pour aborder son suicide. Un geste d'autant plus énigmatique que Zweig ne meurt pas seul. Charlotte Attman, son épouse, 27 ans de moins que lui, met également fin à ses jours en même temps que son mari. Notre invité aujourd'hui, Sébastien Lapacq, écrivain, auteur de Échec et Matou. Au paradis, récit romancé des derniers jours de Stefan Zweig, un livre publié en 2024 chez Actes Sud, prix Renaudot dans la catégorie essai. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Romain Weber, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Mardi 17 février 1942, à Rio de Janeiro, matin de carnaval. Des danseuses, des danseurs, des tambours, des trompettes, des trombones, des guitares, des chars gigantesques de toutes les couleurs, de l'alcool, beaucoup d'alcool, des hommes et des femmes maquillés, déguisés ou presque nus sous un immense soleil. Tout s'inverse, on transforme les souffrances en allégresse. Il n'y a plus de pauvres, plus de riches, plus de noirs, plus de blancs, plus de métis. C'est bien le rôle d'un carnaval, cette parenthèse enchantée. Alors, comme tous les ans depuis un siècle, Rio de Janeiro parade. Mais en cette année 1942, la métropole brésilienne a peut-être plus besoin de joie que d'habitude. Car la guerre progresse, elle s'étend à tous les autres continents et menace peut-être d'arriver jusqu'au Brésil. Dans cette marée humaine qui verse dans le délire pour oublier l'angoisse, arrêtons-nous sur deux individus dont l'apparence jure dans la foule qui les entoure. Un homme et une femme. On pourrait penser à un père et sa fille, mais non. C'est un couple. Lui a 60 ans, elle deux fois moins. Ils sont blancs, habillés à la mode européenne. Une chemise pour lui, des petites lunettes, une moustache bien taillée et la raie sur le côté. Elle porte une longue robe, un chignon et un collier de perles. Ce sont Stefan Zweig et Charlotte Altman. L'homme a un carnet dans les mains. Il regarde alternativement la foule et les pages qu'il remplit. Il ne s'arrête jamais d'écrire. Derrière lui, comme une ombre, son épouse l'observe avec admiration. Un autre couple les accompagne. Des Allemands, eux aussi en exil. Ils s'appellent Feder. Et ce sont eux qui ont insisté pour que Stefan et Charlotte viennent. Ils voulaient leur changer les idées. Et c'est réussi. Ils chantent, ils sont heureux, le carnaval fonctionne. Mais au détour d'une rue, tout change. Zweig se fige, devient livide. Quelque chose accroche son regard. Là, dans le défilé, il y a des têtes connues, trop connues. Des masques en carton pâte, des caricatures de Mussolini et d'Hitler, avec des drapeaux à droite à croix gammée. Ceux qui les portent les tournent en dérision. Mais ça, Zweig en est incapable. Il était prévu que Charlotte et lui passent la nuit à Rio, mais la vue de ces masques lui en a ôté l'envie. Alors, ils repartent dès le soir pour le village isolé où ils séjournent, à 2 heures de route, et qui leur sert de terre d'asile depuis quelques mois. Il leur reste 5 jours à vivre. Antonina Valentin, une amie de Zweig, raconte.
Il est mort parce qu'il faisait trop beau autour de lui, et parce que nous, nous souffrions trop. Parce que la vie était trop facile pour lui et la nôtre trop livrée au péril. Parce qu'il désespérait de nous joindre assez vite, de nous trouver tels qu'il nous avait quittés. Il y avait trop de beauté autour de lui, trop de soleil, trop de fruits, trop de fleurs, pour qu'il pût concevoir la force qui s'amassait à travers notre vie de privation, de terreur. Il est mort, je crois, de la pitié qui le débordait, un peu pour lui-même, isolé sur sa colline enchantée, pour nous surtout.
Toute sa vie, Stefan Zweig a écrit sur les autres, avec toujours une immense empathie. Mais alors que la guerre fait rage, pour la première fois, il travaille à ses mémoires. Pour le titre, il hésite. Pourquoi pas « Les jours enfuis » ou « Les années irrévocables ». Non, ce sera « Le monde d'hier », sous-titré « Souvenir d'un Européen ». Pour comprendre, il faut ouvrir ce livre, bien sûr. Et voici comment il commence. Je suis conscient des conditions défavorables mais très caractéristiques de notre époque, dans lesquelles j'entreprends de donner forme à mes souvenirs. Je les rédige en pleine guerre, à l'étranger, et sans la moindre pièce qui puisse secourir ma mémoire. Je n'ai à ma disposition dans ma chambre d'hôtel ni un exemplaire de mes livres, ni une note, ni une lettre d'ami. Parlez donc et choisissez pour moi, ô vous, mes souvenirs, et rendez au moins un reflet de ma vie avant qu'elle ne sombre dans les ténèbres. Quand il se lance, une décennie est passée pendant laquelle Zweig assiste à l'écroulement de son monde.
10 mai 1933. Nous nous trouvons en place de l'Opéra à Berlin. En ce moment, tous les étudiants allemands font brûler sur un énorme bûcher des écrits et des livres immoraux et corrompus. Au feu, tous les livres contre le matérialisme, pour l'idéalisme. Au feu, Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Ce 10 mai 1933, dans une atmosphère de cauchemar, des milliers de membres du parti nazi sont réunis place de l'Opéra, à Berlin. Ils s'entassent autour d'un brasier qui rougeoie dans la nuit. Ils jettent des livres dans le feu. Ceux des auteurs de gauche, ou écrits par des juifs ou des étrangers. Marx, Freud, Brecht, Thomas Mann, Einstein, Jack London, Proust, Zola et Stefan Zweig. En maître de cérémonie, perché sur un pupitre recouvert d'une grosse croix gammée, Goebbels, ministre de la propagande, électrise la foule en hurlant à la destruction de la pensée prétendument anti-allemande. Le discours terminé, l'autodafé reprend de plus belle, accompagné par des chants nazis, alors que les cendres des œuvres proscrites s'envolent. Ces cendres, il ne les voit pas, Stefan Zweig. Non, il est trop loin. En revanche, ces chants, il les connaît. Voilà quelques années qu'il les entend chez lui à Salzbourg, en Autriche. Sa belle maison est perchée sur une colline, un peu en retrait. Mais ses chants portent jusqu'à ses fenêtres et lui glacent le sang. Il a commencé à les entendre au moment où le nom d'Hitler est apparu dans les discussions de l'aristocratie autrichienne. Un nom qui n'était pas pris au sérieux et que certains ne détestaient pas tant que ça, pourvu que ces nazis s'occupent du péril communiste. Au début d'ailleurs, Stefan Zweig n'y porte pas beaucoup d'attention non plus. Mais du mépris, oui. Tant pour les nazis que pour les communistes d'ailleurs. Ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est le fanatisme. Et même lorsque Hitler devient chancelier en janvier 33, l'écrivain demeure convaincu que l'Allemagne étant l'héritière de siècles de progrès humaniste, ces idées-là seront toujours les plus fortes. Mais les semaines passent et Zweig prend la mesure de l'histoire.
On apprenait en frissonnant qu'il y avait en pleine paix des camps de concentration et que dans les casernes, on avait aménagé des chambres secrètes où des innocents étaient exécutés sans jugement et sans formalité. Tout cela ne pouvait être que l'explosion d'une rage insensée, se disait-on. Cela ne peut pas durer dans le XXe siècle. Mais cela n'était que le commencement. Le monde tendit l'oreille, se refusa d'abord à croire l'incroyable. Mais déjà ces jours-là, je vis les premiers fugitifs. Ils avaient grimpé de nuit sur les montagnes de Salzbourg ou traversé à la nage la rivière qui marquait la frontière. Affamés, les vêtements en loques, les ragards, ils vous regardaient fixement. Avec eux avait commencé cette fuite panique devant l'inhumanité qui se poursuivit ensuite autour de la terre entière. Mais je ne soupçonnais pas encore, en voyant ces proscrits, que leur visage pâle m'annonçait déjà ma propre destinée et que nous serions tous, les victimes de la fureur de dominer de ce seul homme.
Gloire au Führer ! Auf den Führer !
Qui est-il, Stefan Zweig, en 1933 ? Eh bien, un écrivain de 52 ans, juif, on l'a dit, auteur d'une grande quantité d'ouvrages. Des nouvelles, dont 24 heures de la vie d'une femme, des biographies, celles de son ami Romain Rolland ou de Marie-Antoinette, et des pièces de théâtre. Toute son œuvre est héritée du romantisme, au sens large. Goethe, Shakespeare, Victor Hugo, Freud. Tout est célébration de cette Europe qui a poussé la description des sentiments au plus haut degré de sophistication. Zweig est également en 33 un homme marié, à une femme qui s'appelle Friederike, qui joue davantage le rôle de soutien psychologique que d'épouse. Ces deux personnes s'aiment profondément, mais Zweig est très infidèle et leur mariage périclite. Disons qu'il a beaucoup d'empathie pour les personnages qu'il raconte, beaucoup moins pour ceux qui l'entourent. Pour finir, c'est un homme qui fuit la politique. Il n'est jamais militant et il garde ses opinions pour la sphère privée. Pendant la Première Guerre, il s'enfuit en Suisse. Et avec le danger nazi, avec ces gens-là dans la rue qui refusent maintenant de le saluer et qui lui jettent des regards haineux, Zweig pense de nouveau à la même chose, émigrer. février 1934 à l'aube, on frappe à la porte. Des coups brutaux qui annoncent une mauvaise visite. Zweig émerge de son lit, moyennement réveillé. Il est secoué par quatre policiers qui déboulent, à peine leur a-t-il ouvert. Ils mettent la maison sans dessus-dessous. Ils disent chercher des armes destinées aux milices ouvrières. Et ils ne trouvent qu'un vieux pistolet de 1914, alors ils repartent. Zweig saisit une valise et la bourre de tout ce qui peut y entrer. C'est décidé, il part, seul. Il saute dans un train pour Londres, le train se met en marche et Zweig se perd dans la contemplation des forêts autrichiennes. Derrière lui, il laisse sa femme, sa mère, sa maison, sa bibliothèque et peut-être pour toujours son pays. Il écrit.
L'air devient lourd ces temps-ci. Pour nous qui constatons de toutes parts la folie de cette violence, et j'ai souvent le sombre pressentiment que tout cela n'est que le combat d'un avant-poste, d'une guerre mille fois plus terrible. Un ciel si sombre ne s'éclaircit pas sans une tempête.
Londres, quelques mois plus tard. Zweig est assis à un bureau, tandis qu'une femme de 24 ans tape à la machine les chapitres de sa nouvelle biographie. Elle ne dit pas grand-chose, elle a toujours l'air malade. Elle est asthmatique en vérité, et très effacée. C'est sa secrétaire, mais c'est aussi sa maîtresse. Elle s'appelle Charlotte Atman, Lot pour les intimes. Qu'est-ce qui a séduit Stefan Zweig chez elle ? Sa jeunesse, lui qui commence à se voir vieillir ? Probablement. Mais aussi l'admiration qu'elle lui porte. Elle est toujours d'accord, ne conteste rien. Quand il sort, il la laisse à l'hôtel. Il n'en parle pas vraiment. Il dispose d'elle, en quelque sorte. Lisons quelques lignes de ce qu'elle est en train de taper. C'est au sujet d'une reine écossaise, Marie Stuart, pour laquelle Zweig se passionne. C'est seulement, écrit-il, quand un être met en jeu toutes ses forces qu'il est vraiment vivant. Toujours, il faut qu'un feu intérieur embrase et dévore son âme pour que s'extériorise sa personnalité. Et plus loin, il écrit « Les événements servent de mesure à l'âme ». Avec sa maîtresse, Zweig promène son spleen en Europe, Écosse, Paris, Italie. Cette tristesse, sa femme Friederike ne la comprend pas. Elle lui dit qu'il est fou, qu'il ferait mieux de rentrer. Mais Zweig ne veut pas. Il est certain que d'autres malheurs sont en préparation. Friederike lui rétorque que le malheur est son obsession. Et il l'écrit avec de belles formules, cette obsession. Exemple. Je vis sur une branche vacillante. Une vague recouvre l'autre. Je suis comme un homme qui passe ses nuits dans un cimetière sur la tombe de sa femme disparue. Zweig s'enfonce dans la dépression. Il accable l'état du monde. Mais il a suffisamment côtoyé Freud pour savoir qu'il faut aller chercher les causes beaucoup plus loin. En 1938, Hitler entre à Vienne après l'annexion de l'Autriche. Les biens de Stefan Zweig sont saisis et ses livres détruits dans les autodafés qui s'exportent maintenant dans sa propre ville. Zweig était autrichien, il n'est maintenant plus qu'un juif errant. En danger de mort chez lui, soupçonné d'être un espion ailleurs. Je titube dans le vide, les yeux ouverts, dit-il. Vertige. Tout ce qui peut le sauver, c'est un endroit à l'abri de ce chaos, où il puisse travailler, le plus loin possible. Au fond, si on ne la voit pas et si on ne l'entend pas, la guerre existe-t-elle toujours ?
Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, oh reviens soleil, soleil. Regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera, on pourra tous partir.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Stefan Zweig, La fin d'un monde.
Affaires Sensibles. Sur France Inter.
J'avais connu Stefan Zweig bien des années avant la guerre à Paris. Mais j'ai gardé un souvenir particulièrement frappant de nos derniers entretiens. C'était aux États-Unis, au printemps de 1941.
Cet homme qui parle à la radio en 1947, c'est Pierre Cotte, un ancien ministre du Front Populaire. Il est parti aux États-Unis, comme Stefan Zweig, dont la progression nazie ronge le moral. Par-dessus tout, la marche sur Paris le fait plonger dans un gouffre. Alors, un mois plus tard, il embarque sur un paquebot direction New York. C'est là qu'il entame son autobiographie. C'est là également qu'il rencontre Pierre Cotte.
Je me souviens en particulier d'un dimanche qu'il passa chez nous avec sa jeune femme. J'ai compris ce jour-là que la guerre qui se déroulait alors en Europe avait brisé leur sort de sa vie. Et lorsque j'appris par la suite la nouvelle de son suicide, je fus certes bouleversé comme tous ceux qui l'avaient connu, mais je ne fus pas surpris. Zweig m'était apparu en effet comme un être, je ne dirais pas, incapable de s'adapter au monde nouveau qui devait sortir de la guerre, mais ne désirant pas s'adapter à ce monde dont il redoutait la brutalité.
Stefan Zweig n'est jamais heureux là où il pose ses valises. Alors toujours, il repart les traîner ailleurs. Et partout, en train, en bateau, en taxi. Lotte le suit comme si elle était une extension de lui-même. Après l'Angleterre et les États-Unis, il décide de partir encore plus loin, voir si l'air est meilleur. Cette fois, en Amérique du Sud. Août 1940, les pitons rocheux de Rio de Janeiro pointent à l'horizon. Les passagers se pressent sur le pont et goûtent le spectacle de cette baie qui les accueille, ses grandes plages, sa jungle et son Christ rédempteur, dont la silhouette se détache sur le ciel bleu. Parmi eux, Zweig et Lotte se prennent à espérer une vie un peu plus douce. Cette baie, l'écrivain l'a décrite dans sa biographie de Magellan. C'est, dit-il, un vrai paradis pour les équipages épuisés. Alors maintenant, pourquoi le Brésil ? D'abord parce que c'est loin, parce que c'est encore la paix, là-bas, et parce qu'il y a été invité quelques années plus tôt et qu'il a trouvé ce pays, je cite, « le plus ensorcelant qui existe sur Terre ». Il aime son soleil, son café, ses cigares, ses femmes. Nos deux exilés débarquent sur le quai. Ils s'enregistrent à la douane, où un agent note « couleur des cheveux gris ». Oui, Zweig vieillit, et il a horreur de ça. À New York, il a essayé une cure de testostérone, censé lui redonner un peu de jeunesse, mais qui ne fonctionne pas. Bon, ça se saurait. Ce qui fonctionne, en revanche, c'est l'écriture. C'est son autobiographie. Là, il retrouve sa jeunesse. Là, il soigne sa nostalgie. Il écrit le monde d'hier entre le Brésil et les États-Unis où il retourne à plusieurs reprises.
Comment parvenir à ce que les êtres humains vivent en paix sur notre terre, malgré toutes les différences de race, de classe et de religion. Et il me semble que le Brésil a trouvé une réponse. Et cela bien que sa végétation et plus encore sa population soient bien plus colorées qu'en Europe.
En août 1941, le couple s'établit dans une ville sur les hauteurs de Rio du nom de Petrópolis. On y accède par une route qui serpente dans la jungle. Cette ville a été fondée au 19e siècle par un empereur qui a fait venir des Prussiens. Avec ses grandes maisons couleur délavée et sa cathédrale néo-gothique, on croirait une colonie bavaroise nichée dans la forêt tropicale. Zweig retrouve au cœur de cette jungle quelque chose de familier. Oui, il se dit libéré d'un poids. La maison qu'il a trouvée est à l'écart, encore une fois. Mais il ne suffit pas d'être de l'autre côté de l'océan. Il faut encore qu'il trouve une ville éloignée du monde et, dans cette ville, une maison excentrée. Sur la route de Rio, la petite maison borde la forêt. L'endroit est magnifique quand il fait beau. Mais quand il fait sombre ou qu'il pleut, la forêt prend une couleur menaçante. L'été, la jungle dégage une odeur acide de fruits en décomposition. Et cette humidité qui ne s'en va jamais, terrible. Dans ces conditions, Lotte fait des crises d'asthme à répétition. Ce paradis a quelque chose de suffocant. Dans cet exil, Zweig passe son temps entre la bibliothèque qu'il s'aménage et le café d'en face. Il fuit la radio, il n'ose pas ouvrir le journal. À la place, il se plonge dans Goethe et Shakespeare. Les voisins, un couple qui s'appelle les Feder, on en a parlé tout à l'heure, lui prêtent des livres de Montaigne. Tiens, voilà un nouveau sujet pour une biographie. Montaigne, ce grand savant dans un siècle de brutes. Il a connu la Saint-Barthélemy et la peste, et toujours il s'est tenu à l'écart. Comment puis-je préserver la clarté de mon cerveau dans une époque sans cœur, s'est-il demandé alors. Donc, Zweig se met à la tâche et il écrit, à travers Montaigne, un nouvel autoportrait.
Jusque-là, Montaigne a vécu pour d'autres. À présent, il veut vivre pour lui. Il voulait aider, il n'est arrivé à rien. Il avait des ambitions, on lui a barré la route. Il voulait conseiller, ses conseils ont été ignorés. Il se dit ce que nous nous disons si souvent lors de semblables époques de folie. Ne t'occupe pas du monde. Tu ne peux pas le changer ni l'améliorer. Occupe-toi de toi-même. Sauve en toi ce qu'il y a à sauver. Construis quand les autres détruisent. Essaie d'être raisonnable au sein de la démence. Édifie ton propre monde, libre du destin. Nous sommes ses maîtres. Nous donnons aux choses des couleurs et un visage. Et la dernière liberté à l'égard de la mort. La vie dépend de la volonté d'autrui, la mort de la nôtre. La plus volontaire mort est la plus belle.
En tapant à la machine ce que son mari écrit, Lotte est aux premières loges pour constater l'enlisement de Stéphane dans la dépression. Elle lui reproche aussi de regarder les autres femmes, mais elle le soupçonne de la tromper. Elle l'accuse d'être responsable de sa santé qui se dégrade. Zweig prend des somnifères pour dormir, parce qu'il a peur de la nuit et des pensées qui vont avec. Et son 60e anniversaire, qui approche, n'arrange rien. Il a lieu le 28 novembre 1941. Mais Zweig demande à ce qu'on ne lui souhaite pas. Oh, vieillesse ennemie. D'ailleurs, il écrit un poème que lui inspire son âge, précisément. Il l'appelle « Les remerciements du sexagénaire ». Et ça dit « Plus douce est la ronde des heures quand les cheveux déjà grisonnent. Le pressentiment des ténèbres n'effraie pas, il soulage. Seul peut goûter la joie de contempler le monde celui qui ne désire plus rien, qui ne pleure plus ce qu'il a perdu, et pour qui vieillir n'est que les prémices de son départ. Jamais la vue n'est étincelante et libre qu'à la lumière du couchant. Jamais on n'aime plus sincèrement la vie qu'à l'ombre du renoncement. » Dans ses ultimes moments, Zweig a une autre idée de texte, une nouvelle. C'est l'histoire d'un voyage en paquebot entre deux continents, pendant lequel un champion d'échecs est mis à l'épreuve par un inconnu, un certain docteur B, qui a appris les échecs seul alors qu'il était soumis à l'isolement le plus total par les nazis. C'est en quelque sorte l'histoire d'un homme qui lutte contre la folie. Mais cette histoire, pour l'instant, Zweig ne sait pas comment la terminer. La fin est en suspens, alors que vient la saison du carnaval, mais aussi du souffle de la guerre qui se rapproche. En janvier, les ports brésiliens sont en état d'alerte et il est désormais interdit de parler italien ou allemand. La déclaration de guerre est imminente. Zweig ne peut pas éviter les titres des journaux qui le replongent dans l'angoisse. Même le carnaval est impuissant à le sortir de sa torpeur.
Wissen Sie noch, was der Simon gesagt hat, als Sie nach Paris gezogen sind? Der ganze Kurfürstendamm ergießt sich jetzt über Paris.
Jetzt ergießt es sich über Petropolis.
Ja, Sie sind ein Anfang immerhin.
Le 21 février au soir, Zweig et Lotte convient les fédères à dîner. La soirée se passe comme d'habitude, mais les invités remarquent que les visages de leurs hôtes sont plus graves encore que d'habitude. Les deux couples discutent sous la véranda, avec les grillons en arrière-plan. Enfin, les hommes discutent, les femmes écoutent. Croyez-vous vraiment, dit Zweig, que nous pourrons revenir en Europe? Assurément, lui répond l'autre. Et d'ailleurs, peut-être partirons-nous avec vous. Zweig ne renchérit pas, non. Il esquisse seulement un sourire triste. Son interlocuteur lui propose alors une partie d'échecs pour terminer la soirée. Bien. Puis il est l'heure de se dire au revoir. Zweig rend les œuvres de Montaigne que les Fédères lui ont prêtées. Déjà, demande Fédère, vous avez trouvé une édition complète? Oui, c'est ça, répond Zweig avec une petite voix. Les deux couples s'embrassent et dans une dernière pensée, les Fédères leur conseillent un voyage en Colombie. En serrant la main de son voisin, Zweig répond « Je ne ferai pas ce voyage-là. » Les Fédères ignorent qu'il a occupé les jours précédents à envoyer des lettres à ses proches, à régler ses factures, à classer ses livres et à brûler les archives inutiles. Car Zweig a pris sa décision. Il veut partir comme il a vécu, poliment, en oubliant de remercier personne. Ni ses éditeurs, ni le maire de Petropolis, ni même le directeur de la bibliothèque municipale. Son ami le Romain se souvient. Il était à l'époque dans un hôtel au Mexique.
Un jour, le portier me remet un petit mot. Falleció el señor Zweig. C'est-à-dire, vient de mourir le seigneur, monsieur Zweig. Je me suis même demandé si je comprenais bien, s'il n'y avait pas un emploi de falleció qui était plus modeste que mourir, ouais, n'est-ce ouais. pas? Je suis monté très ému à mon appartement. Exactement 7 jours plus tard, un valet de l'hôtel me remettait une enveloppe où je reconnus aussitôt l'écriture de Zweig. Pendant que j'ouvrais l'enveloppe, j'eus, sans y mettre le moins du monde de la complaisance littéraire, une impression que je n'avais jamais encore eue dans ma vie, celle d'un mort qui se manifestait à moi à travers une barrière.
Un arbre sans racines est une chose bien chancelante, mon ami, dit la lettre. Mais la plus émouvante de ces missives, elle est pour son ancienne femme, Frédérique. Il écrit « Je n'ai rien d'autre à t'envoyer que mes pensées les plus affectueuses. Le fantastique carnaval de Rio vient de se dérouler, Mais mon cœur n'est pas aux festivités. Je suis plus angoissé que jamais. Jamais ne reviendra le passé disparu. Et jamais ce qui nous attend ne nous rendra ce que ce passé nous avait donné. Toutes mes pensées sont près de toi. Ici, je n'avais que la nature et les livres, de bons vieux livres que j'ai lus et relus. À toi, pour toujours. Il existe une photo de Sveg et Lotte dans la mort. Elle est prise par un photographe qui accourt quand le bruit se propage. La bonne et son mari ont trouvé Stefan Sveg sans vie, dans son lit. La photo est terrible. Il a la tête sur un oreiller, il porte une chemise à manches courtes, une cravate, des chaussettes en laine et des chaussures marron. Il a les mains croisées sur son ventre. Lotte est penchée sur lui, une robe blanche en dentelle, la tête sur son épaule et la main qui agrippe les siennes. Sur la table de chevet, il y a une boîte de barbiturique et une bouteille d'eau presque vide. Sur le bureau, des stylos bien rangés, des piles de manuscrits et une enveloppe avec écrit « Declaration » en portugais. À l'intérieur, d'une écriture soignée, il conclut « Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit ? Moi, je suis trop impatient et je pars avant eux. » Son ami Anthony Davalentin enchaîne.
La mort de Stefan Zweig est restée une énigme pour ses amis. Les derniers mots qu'il a laissés sont d'une écriture étrangement ferme. La belle écriture à haute majuscule, ronde et claire, la signature aussi calme que sur la dédicace d'un livre. À peine une rature, très soignée elle aussi. Tout Stefan Zweig est dans ce message d'adieu. Ne faire de la peine à personne. Même à cette heure où il brisa tous les liens avec les vivants, il ne se départit pas de ses habitudes de courtoisie. Mais il ne se départit pas non plus de sa réserve coutumière. Ce qui frappe d'abord, et ce qui le caractérise le mieux, c'est ce qui se ne trouve pas dans sa lettre. Pas d'accusation. L'ennemi n'est pas nommé. Son ton dominant est d'une sérénité résignée. Sa main n'a pas tremblé. Peut-être n'avait-il même pas de larmes dans les yeux.
Pour tous ses lecteurs, ses amis, ses proches, ce suicide est une énigme. À l'exception peut-être de son ex-femme, qui avait décelé chez lui cette obsession du malheur. Cela dit, le suicide est un acte tellement intime qu'il est souvent difficile d'en comprendre les raisons exactes, et ça vaut aussi, bien sûr, pour Stefan Zweig. En tout cas, les funérailles sont célébrées avec beaucoup de faste par le gouvernement brésilien. Le président dirige le cortège, tandis qu'aux États-Unis, de grands rassemblements réunissent ses admirateurs. Mais certains d'entre eux ne se joignent pas à la célébration. D'autres même conspuent ce geste qui ne lègue à l'humanité rien d'autre que du désespoir. C'est le cas d'un autre grand écrivain, lui aussi exilé au Brésil, dans un endroit qui s'appelle la Croix des âmes, Georges Bernanos. Et Stefan Zweig, c'est peut-être l'ultime énigme, lui a rendu visite dans les tout derniers jours. Bernanos, le catholique, le royaliste, mais l'humaniste. Bernanos, qui a quitté l'Action française, qui soutient De Gaulle contre Pétain et qui n'arrête pas le combat des idées, même sur un autre continent. Il écrit dans un journal brésilien.
Le suicide de M. Stefan Zweig n'est pas un drame privé. Avant même que la dernière pelletée de terre fût retombée sur le cercueil de l'écrivain célèbre, les agences en transmettaient déjà la nouvelle au public universel. Des milliers et des milliers d'hommes qui tenaient M. Zweig pour un maître, l'honoraient comme tel, ont pu se dire que ce maître avait désespéré de leur cause, que cette cause était perdue. La cruelle déception de ces hommes est un fait beaucoup plus regrettable encore que la disparition de Stefan Zweig. Car l'humanité peut se passer de Stefan Zweig et de n'importe quel écrivain. Mais elle ne peut voir sans angoisse se réduire le nombre des hommes obscurs, anonymes, qui, n'ayant jamais connu les honneurs ni les profits de la gloire, refusent de consentir à l'injustice, vivent de l'unique bien qui leur reste, une humble et ardente espérance, qui touche à ce bien sacré, qui risque d'en dissiper une parcelle, désarme la conscience du monde et dépouille les misérables.
Traduction, ce suicide est une désertion. Pourtant, Zweig propose une voie alternative. Le joueur d'échecs paraît à la fin de l'année 42 à Buenos Aires. Avant de mourir, l'écrivain a trouvé le dénouement de l'histoire de cet homme qui, sur ce bateau entre deux continents et devant une partie d'échecs, menace de sombrer dans la folie. Plutôt que de s'obstiner, il choisit la retraite, mais aussi la vie. Voici la dernière page de ce qui est certainement la plus belle nouvelle de Stefan Zweig. « À vous aussi, messieurs, je dois des excuses. Mais je vous avais bien prévenu de ne pas fonder trop d'espoir en moi. Pardonnez-moi pour cette déconvenue. C'était la dernière fois que je tentais ma chance aux échecs. Stefan Zweig. C'est l'histoire d'un homme assis sur le rebord du monde. C'est l'histoire d'un monde et d'un homme qui s'en vont. Aujourd'hui, Stefan Zweig, notre invité Sébastien Lapacque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, auteur de Échec et mat au paradis, récit romancé des derniers jours de Stefan Zweig, et plus particulièrement de sa rencontre avec Georges Bernanos. C'est un livre publié en 2024 chez Actes Sud, prix Renaudot dans la catégorie essai. Félicitations au passage. Alors, la faillite de son monde, culturel, intellectuel, politique, est-elle réellement, selon vous, responsable de son suicide ? Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, que le suicide de tous les humains est quelque chose de très mystérieux, parce que très intime.
C'est vrai, d'ailleurs, l'œuvre de Stefan Zweig est hantée par le suicide. Il y a plusieurs personnages qui se suicident. Et étrangement, le parallélisme s'établit immédiatement. Chez Georges Bernanos aussi, la fameuse mouchette qui a inspiré à Robert Bresson un fameux film, ce suicide, et puis il y a d'autres suicides. Alors, on a l'impression que Bernanos raconte des suicides pour le conjurer, ce risque ou cette tentation, et quant à Zweig, il n'arrive pas à la conjurer. Je pense que c'est vraiment ça, l'histoire du drame que vous avez résumé dans votre récit. C'est une espèce de face-à-face avec les ténèbres, avec une tentation terrible, et à laquelle Stefan Zweig, une sorte de combat avec l'ange de la mort, dont il n'arrive pas à sortir vainqueur, mais ma conviction, pour avoir travaillé longuement sur ces derniers mois brésiliens, ces 6 derniers mois brésiliens, c'est que qui sont pas très bien connus en France. Zweig a beaucoup écrit, il a beaucoup de correspondants. Vous avez cité beaucoup de noms dans votre récit, tout autour de la Terre, des éditeurs à Buenos Aires, à New York, des correspondants qui sont restés en Europe, un éditeur à Stockholm qui continue de pouvoir, c'est un pays neutre, la Suède, qui continue à pouvoir l'éditer en allemand. Et des amis au Brésil. Donc, il était polyglotte, comme on le sait. Il parlait très bien l'anglais, l'italien et le français. Il avait pour usage, dans ces derniers temps, d'écrire en français, parce que ça simplifiait les choses pour la censure. Parce que, en fait, ça aurait inspiré des soupçons d'écrire en allemand. Il écrivait mieux le français que l'anglais. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses à chercher. C'est difficile à comprendre. Moi, j'ai avancé un peu sur la pointe des pieds parce que c'est difficile de juger un acte aussi terrible et définitif que le suicide. D'abord, on n'a pas le jugé, mais peut-être essayer de l'éclairer. Il y avait un petit peu deux façons de voir les choses. Le geste romantique, vous avez rappelé son romantisme presque adolescent, comme on a dit qu'après les souffrances du jeune Werther de Goethe, il y a eu une épidémie de suicide en Allemagne, de suicide affirmation de soi, qui serait presque de suicide glorieux. Et on peut aussi imaginer des suicides négation de soi, c'est-à-dire par fuite, un suicide lâche. Et est-ce que c'était un suicide affirmation de soi ou négation de soi ? Ben moi, mon travail, c'était de dire ni l'un ni l'autre.
Bien. On va parler un moment de Charlotte Altman. Quelle place elle tient dans sa vie, j'ose dire, dans sa mort.
Alors ça, c'est très important. D'ailleurs, vous l'avez présentée comme sa secrétaire, et vous avez raison, puisqu'elle tapait à la machine, mais elle avait fait des études universitaires à Berlin, et pour une femme née en 1908, c'est pas forcément commun d'avoir un niveau universitaire. Elle avait étudié l'économie, les langues étrangères, et effectivement, elle avait appris à taper à la machine parce qu'elle se destinait sans doute à travailler dans la diplomatie ou pour un écrivain. C'est ce qui est fini par arriver. Mais elle est un peu plus qu'une secrétaire. Moi, je montre qu'il est d'une fantastique productivité dans ces 6 derniers mois brésiliens. Il termine Le Monde d'hier, vous l'avez bien dit, il écrit Le Joueur d'échecs, il écrit ce Montaigne que vous avez évoqué, mais il reprend un petit peu son Balzac. Ouais. Et il écrit aussi des textes qu'on a découverts plus tard, qui sont restés inédits. Et en fait, parce qu'elle elle tape très bien la machine, mais moi je pense qu'elle est même, puisqu'il lui dit que t'es un peu son éditrice. En plus, elle a fait l'effort d'apprendre le portugais, donc il écrit un livre qui s'appelle Le Brésil, terre d'avenir, que vous n'avez pas évoqué. Et elle a pu lui servir aussi de documentaliste dans ces moments-là, et elle lui sert aussi d'intermédiaire avec les autorités brésiliennes et aussi pour tous les problèmes consulaires, les voyages à l'intérieur du Brésil. Donc en fait, elle est plus qu'une secrétaire, elle est une assistante, et moi je vais même jusqu'à dire une éditrice, et même une aspiratrice. Elle s'appelle Charlotte, comme l'héroïne de Goethe dans Les souffrances du jeune Werther, donc figure hautement romantique, évidemment, elle leur renvoie à toute cette rêverie romantique. Et alors, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, elle est plus jeune que lui, vous l'avez dit, elle a choisi la vie, vraiment, elle vient au Brésil avec lui pour se faire une autre vie dans un autre monde. Lui en a sans doute l'espérance. Il y a une chose que vous avez oublié de dire dans ses derniers actes bien rangés, bien pesés, il a écrit 13 lettres, dont celle d'André Mauroy qui a été évoquée. Donc l'hypothèse d'un assassinat par la Gestapo à laquelle certaines personnes croient au Brésil ne peut pas être retenue, parce qu'il y a trop de lettres manuscrites où il explique son geste. En fait, il avait payé son loyer pour 6 nouveaux mois. Donc il y a quand même une hésitation.
Il y a une hésitation, absolument.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Sébastien Lapac, nous avons abordé concernant les derniers jours de Stefan Zweig, ses rencontres avec Georges Bernanos en janvier 1942. Vous avez beaucoup écrit d'ailleurs sur cet épisode. Qu'ont-il à se dire ? Qu'est-ce que Stefan Zweig vient chercher auprès de Bernanos ? Allez-y, d'abord, on fera ce à quoi vous pensez après.
Oui, c'est vrai que ça, c'est encore très mystérieux, puisque c'est peu de jours avant son suicide. Sans doute, Bernanos avait fait un choix plus radical que Stefan Zweig. Il s'était enfoncé beaucoup plus loin dans le Brésil, à 500 km de Rio. Il avait rompu, d'une certaine manière, avec la civilisation européenne. Peut-être que les mémoires de Stefan Zweig ne s'appellent pas par hasard « Mémoire d'un Européen ». Il était resté trop européen et il n'avait pas voulu s'enfoncer dans l'étrangeté brésilienne, puisque c'était à 80 km de Rio, Petropolis. Et Bernanos, c'était quand même vraiment dans les profondeurs du Minas Gerais, l'état après l'état de Rio, un état rural et assez désertique. Peut-être qu'il l'écrit dans une lettre à Mauroy, Zweig. Peut-être qu'il cherche à comprendre comment Bernanos a réussi à s'acclimater en rompant les amarres. Et lui aussi, c'est finalement, on le comprend très bien d'ailleurs dans tout ce que vous avez lu de ce qu'il disait, il avait gardé une partie de son cœur en Europe et ce qui se passait en Europe faisait que son cœur était forcément douloureux.
Et cette maison de Petropolis, vous l'avez vue, qu'est-ce qu'elle vous dit de Stefan Zweig?
C'est très émouvant. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs qui auraient la chance d'aller au Brésil de s'y rendre, parce que c'est à 80 km de Rio, c'est pas très loin. Et puis c'est un musée souvenir qui a été un lieu de mémoire qui est très, très, de manière extrêmement sensible et délicate, c'est-à-dire que c'est pas surchargé. Ils ont laissé la pièce où il s'est suicidé dans sa nudité. Donc on peut se recueillir et penser, on voit les paysages, les derniers paysages qu'il a vus. Ça dit quand même la solitude, la déréliction, ça c'est évident. Que Bernanos vivait dans une espèce de phalanstère agricole. Est-ce qu'il avait cette idée un peu fourriériste ou proudhonienne?
Il y avait beaucoup de monde?
Oui, voilà, il avait sans doute sa ferme, disons, avec les garçons de ferme, d'autres personnes, il devait être une trentaine ou une quarantaine. Il avait créé une petite communauté rurale, comme c'est organisé dans l'intérieur du Brésil. Stefan Zweig, c'était un homme de la ville. C'est un homme de Vienne, c'est un homme de Londres, c'est un homme de Berlin, c'est un homme de Paris. Et là, se retrouver dans cette existence assez campagnarde, avec, vous avez parlé de la forêt, il faut penser aux cris des oiseaux un peu étranges, nous sommes quand même dans un pays tropical, les insectes et l'humidité. Et donc, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Il va chercher... Alors, va-t-il chercher chez Bernanos une espèce de goutte d'espérance, puisqu'on a cité le texte assez de Bernanos, où il évoque l'espérance. Sans doute également, je pense que Bernanos devait lui rappeler aussi un écrivain qu'il avait beaucoup aimé, son ami Joseph Roth. Physiquement, il y a presque quelque chose de commun. C'est cette capacité de se mettre en colère plutôt de se décharger de son désespoir en insultant Hitler, en insultant Pétain, en insultant les gens de Vichy. Stefan Zweig n'a jamais eu ce don de se décharger de ses angoisses en s'en prenant à ses adversaires. Je crois qu'il est d'ailleurs, les histoires l'ont noté, je crois qu'il n'a jamais prononcé ni écrit le nom d'Hitler, par exemple. Même le mot nazi vient très très tardivement, je crois qu'il... Et donc, en fait, il ne voulait même pas nommer l'adversaire. Alors, quant à l'insulter, il en était loin, alors que Bernanos...
Son suicide, c'est une implosion, finalement.
c'est effectivement un moment, il est pris vraiment. Alors moi, ce que j'ai apporté dans mon livre, c'est vraiment la chose que j'ai trouvée, c'est qu'il y avait une présence. Vous avez cité les chars du carnaval avec des caricatures, mais on peut imaginer des Hitler et Mussolini, on peut même imaginer des mouvements culturels italiens ou allemands qui avaient des symboles de l'Italie fasciste ou de l'Allemagne nazie justement par l'intrusion d'associations culturelles et ça, c'était très oppressant à Petropolis. Moi, avant de commencer mon travail, je savais qu'il y avait 40 millions de Brésiliens en 1940, dont 1 million d'Allemands. Et je savais qu'ils étaient dans le sud du pays, avec des cellules d'agitation pro-nazis, mais ils étaient aussi dans les colonies anciennes du 19e siècle, notamment Petropolis, où une grande partie de la bourgeoisie était d'origine allemande et clairement pro-nazis. Donc, les gens pavoisaient avec des drapeaux à croix gammée sur leur villa, et Stefan Zweig a vu ça. Et ça, c'est une chose que j'ai découverte, et je pense que ça a précipité son désespoir.
C'est dur, si loin de l'Autriche retrouver ça.
Vous voyez, et ça c'est une chose que j'ai bien expliqué dans mon livre, je pense que des gens qui pensent que c'est un désespoir privé, et qu'il n'y a pas de désespoir politique, qu'on ne se suicide jamais pour des raisons publiques, mais toujours pour des raisons privées, je pense que l'histoire d'abord de l'humanité prouve qu'il y a des raisons, politiques extérieures à son propre cœur de se suicider. Et il y a des gens qui se suicident dans des naufrages d'un bateau ou dans une circonstance de guerre atroce. Et je pense qu'effectivement, il a été rattrapé par le monstre nazi qui est venu taper au carreau de sa maison à Petropolis au début de l'année 1942. Et ça a précipité son désespoir et sa tentation du suicide était évidemment présente depuis toujours, mais je pense qu'il l'a toujours défié.
Alors, jouons tous les deux, si vous voulez bien, une partie des dialogues que vous avez écrits entre Zweig et Bernano. C'est pour revenir sur ce qu'il venait chercher auprès de Bernano. Vous faites Zweig et je ferai Bernano, d'accord ?
Je suis tellement triste.
Mais ne soyez pas triste. La route devant nous est encore belle. Je suis sûr que nous aurons encore des matins triomphants. Nos pieds mis l'un devant l'autre sous le regard de Dieu finiront bien par nous mener quelque part.
Quel est cet horrible siècle où il faut absolument croire ? Je suis venu dans le monde en pensant que l'on pouvait être heureux en se contentant de vivre.
Pardon, mais la grâce m'a été donnée de croire plus facilement à quelque chose plutôt qu'à rien.
Je ne trouve rien pour combler le vide en moi.
Eh bien, rédigeons un texte ensemble. Une proclamation solennelle pour dénoncer Hitler et les crimes qu'il commet en Europe. Votre nom et le mien, côte à côte, cela frapperait l'opinion internationale. On nous croit si différents.
Mais nous n'échapperons pas au désastre, ou alors il faudrait un miracle.
Il ne nous est pas permis d'attendre un miracle pour sauver le monde. Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres.
Je n'en peux plus de ce monde cruel et fou.
Donc on voit l'espoir d'un côté qui essaie de diffuser auprès de l'interlocuteur et ça le fait pas. Il nous reste que 20 secondes, je suis désolé.
Mais parce que Bernanos, dès le milieu des années 30, à travers son fameux livre « Les grands cimetières sous la lune », a reconnu dans le nazi et dans Hitler le diable et a vu cet épisode comme un combat contre le diable avec une certitude chrétienne que le mal ne triompherait pas.
Et ce sera le dernier mot. Sébastien Lapac, merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Stefan Zweig, La fin du monde, une émission que vous pourrez écouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.